Chapitre 20.
2 octobre 1998, 11h42. Eila Ozan découpait mécaniquement la viande de mouton grillé qui tombait sur l'inox en fines lamelles. Eila pensait à autre chose. Cela ne la retardait pas dans son travail. Au contraire, elle était même plus efficace pour préparer les kebabs lorsqu'elle se perdait dans ses pensées que lorsqu'elle gaspillait son temps à discuter, à plaisanter avec les clients. La file d'attente commençait à s'allonger, comme tous les jours avant midi. Sa petite boutique du boulevard Raspail possédait ses habitués. Eila ne le montrait pas, mais elle était inquiète. Terriblement inquiète. Depuis 2 jours, Nazim ne lui avait donné aucune nouvelle. Cela ne lui ressemblait pas. Le couteau tondeuse continuait de faire pleuvoir la viande. Eila s'imaginait passant l'appareil sur la nuque, le cou, les tempes de Nazim. Elle adorait jouer les coiffeuses pour son géant. La main d'Eila tremblait un peu. Jamais elle ne tremblait lorsqu'elle rasait Nazim. Avoir peur, Eila, ce n'était pas son genre. Elle en avait vu d'autres, lorsqu'elle avait fui la Turquie pour Paris avec son père, après le coup d'État du 12 septembre 1982. Son père, à l'époque, était l'un des principaux responsables du démocratique Sol Parti. Ils avaient échappé de peu aux militaires. 30 000 arrestations en quelques jours. Presque toute sa famille s'était retrouvée derrière les barreaux. Elle était arrivée à Paris sans bagages, sans amis, sans rien. Elle avait 38 ans, ne parlait quasiment pas le français, n'avait aucun diplôme. Elle avait survécu. On survit toujours si on le veut vraiment. Elle avait ouvert, boulevard Raspail, l'un des premiers kebabs de Paris. À l'époque, aucun Français n'avait envie de manger de la viande grillée, comme ça, à l'air libre, devant vous, au milieu des mouches et de la pollution de la ville. Elle servait les Turcs, les Grecs, les Libanais, les Yougoslaves. C'est ainsi qu'elle avait rencontré Nazim. Il revenait tous les midis. Elle ne pouvait pas rater sa moustache. Il avait mis près d'un an, 306 midis exactement, et il avait compté, avant de l'inviter à déjeuner, dans un restaurant turc, mais chic celui-là, rue d'Alésia. Depuis, il ne s'était plus quitté, ou presque. Marié, pour la vie. Et il la frissonna, malgré elle. Plus quitté, ou presque. Juste ses foutus séjours en Turquie, avec Grand-Duc, pour cette fichue histoire de gamin de riche morte dans un accident d'avion. Cette enquête privée de milliardaire. Elle attrapa 3 kebabs enveloppés dans du papier d'aluminium brûlant et cria « Numéro 11, numéro 12, numéro 13 !» Les clients levaient la main, comme à l'école, comme à la sécu. Chacun leur ticket. Et Eila n'avait pas 4 mains. Elle ne pouvait pas aller plus vite. Elle jeta un sachet de frites surgelées dans l'huile bouillante. Elle avait pourtant bien cru que c'était terminé, ces histoires. Avec son restaurant, enfin, si on pouvait appeler cela un restaurant, elle avait mis de l'argent de côté, petit à petit, midi après midi. Une belle petite somme, au bout du compte. Elle n'avait plus l'âge, maintenant, de porter les sacs de viande, de se brûler les mains dans la friture. Elle rêvait de retourner en Turquie avec Nazim, retrouver sa famille, ses cousins. Elle en avait presque les moyens. Elle avait fait et refait les comptes. Elle avait repéré une petite maison à retaper sur la côte, près d'Antioche. Une affaire. Il faisait toujours beau là-bas. Elle et Nazim avaient encore de longues années à vivre, les plus belles. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire, cette âne? Dans quel plan foireux s'était-il encore laissé entraîner par Grand-Duc? 3 nouveaux papiers aluminium. Elle les emballa comme des cadeaux d'argent. Numéro 14, numéro 15, numéro 16.
Une dernière fois.
Lui avait dit Nazim.
Une toute dernière fois.
Il était à nouveau tout excité lorsque Crédule l'avait appelé 2 jours auparavant. Nazim avait les yeux qui pétillaient, comme un gamin. Et il l'aimait tant quand il faisait ses yeux d'enfant. Il l'avait prise dans ses bras, soulevée comme une plume. Nazim était le seul à pouvoir le faire.
On va être riche, Eila. Juste une dernière affaire à régler. Et on va être riche.
Riche ? Eila s'en fichait. Il était déjà presque assez pour la maison d'Antioche. Une dernière affaire, tu me promets. Les mains d'Eila tremblaient. Le couteau tondeuse sur la viande déviait de sa course rectiligne, en faisait de la charpie, une bouillie immangeable. Plus elle y songeait, plus tout ce qui se passait lui faisait peur. Ce silence, cette absence soudaine de nouvelles, Même lorsqu'il partait en Turquie, Nazim appelait tous les jours. Et crédule, qui ne répondait pas non plus, personne chez lui. Elle essayait d'appeler depuis 2 jours. Oui, plus elle y pensait, moins elle arrivait à supporter les minutes qui défilaient. Elle ressentait comme un mauvais pressentiment. Sans ses derniers clients, elle aurait couru comme une folle rue de la Butte aux Cailles, chez Grand-Duc. C'est ce qu'elle allait faire dès qu'elle aurait fermé le kebab. Numéro 17, numéro 18. Elle était consciente que son Nazim n'était pas un ange. Il lui avait même avoué des actes terribles après toutes ces années quand elle lui faisait l'amour, quand elle le laissait frotter sa moustache dans tous les replis de son corps, quand elle éclatait de rire, toute frissonnante, parce qu'il chatouillait de ses poils coquins ses seins, ses cuisses, son sexe. Ensuite, quand il avait joui, il lui disait tout. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Il ne lui avait jamais rien caché. Elle connaissait les noms, les lieux, elle savait où Nazim cachait les preuves. Elle était son assurance-vie. Une enquête de milliardaire. Mieux valait prendre ses précautions lorsque l'argent tombe trop facilement, même pendant longtemps. Il y a forcément un jour où l'on vous demande de rendre des comptes. C'est aussi pour cela qu'elle voulait partir à Antioche, pour que Nazim laisse toutes ses histoires ici, à Paris. Numéro 19. Elle soupira. Non, Nazim n'était pas un enfant de cœur. Sans elle, il était incapable de faire les bons choix, de faire le tri entre le bien et le mal. »